l'écoute de RFI, 20h30 ici à Paris, 19h30 à Libreville. Et place à toute l'actualité africaine, la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'actualité africaine, la décision de la Cour internationale de justice sur le litige qui oppose depuis des décennies la Guinée équatoriale au Gabon. Les deux pays se disputent depuis le début des années 70, trois îles inhabitées dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. Cela dit, la plus haute juridiction des Nations Unies a donné raison à la Guinée équatoriale. En République démocratique du Congo, un projet de circulation alternée à Kinshasa suscite la polémique. Les autorités envisagent effectivement la mise en place de nouvelles mesures pour mettre fin aux embouteillages qui paralysent cette mégalopole de 17 millions d'habitants, notamment la circulation alternée des voitures selon leur plaque d'immatriculation, mesure qui ne semble pas faire l'unanimité. À la une également, le procès de l'opposant tanzanien Tundu Lissu, ajourné au 2 juin. Ce matin, le président du parti Chadema a comparu devant un tribunal de Dar es Salaam lors d'une audience préliminaire. Il doit répondre de deux chefs d'accusation, publication de fausses informations en ligne et trahison, ce dernier crime étant passible de la peine de mort. Enfin, plus léger, notre rendez-vous à Cannes pour la 78e édition du prestigieux Festival du cinéma. Nos envoyés spéciaux Guillaume Thibault et Tiffany Manta nous attendent sur la croisette. La Cour internationale de justice a donc rendu sa décision sur le litige qui oppose depuis des décennies la Guinée équatoriale au Gabon. Les deux pays, je vous le rappelle, se disputent depuis le début des années 70 trois îles inhabitées dans une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. Ce lundi, la haute juridiction des Nations Unies a donc donné raison à la Guinée équatoriale. À La Haye, les précisions de Stéphanie Maupin.
C'est une île d'à peine 30 hectares et deux îlots qui depuis des années nourrissent un conflit entre les deux États pétroliers. Les deux pays revendiquaient leur souveraineté sur ces bandes de terre et plus particulièrement sur les eaux territoriales les entourant, des eaux qui seraient potentiellement riches en pétrole, en gaz et en poissons, c'était l'enjeu principal de cette affaire. En revendiquant leur souveraineté, chacun des deux États brandissait des titres. Le Gabon s'appuyait notamment sur une convention que Malabo avait qualifiée de bout de papier lors des audiences à La Haye en octobre. Les juges ont estimé que cette convention n'avait effectivement pas de valeur légale. Au contraire, les juges ont décidé qu'était valable un titre de 1968 remis par l'Espagne à la Guinée équatoriale. Au-delà du pétrole, il était aussi question d'un accès à la mer qui sera désormais plus limité pour le Gabon. S'ils ont délimité les frontières, comme le demandait d'un comme un accord, les deux États, les juges n'ont pas dit qui avait la souveraineté sur les petites îles, mais les deux États ont promis d'appliquer la décision de la Cour. Stéphanie Maupin et RFI.
Et pour aller plus loin, Alexandra Branjon a pu joindre Serge Diomont, expert en énergie et pétrole. Elle lui a demandé pourquoi on parle de zones potentiellement riches en pétrole. Écoutez.
Une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz, c'est une zone effectivement probante en ces matières hydrocarbonées qu'on les découvre par des clés géologiques en fait. C'est-à-dire que ces clés géologiques montrent qu'effectivement il y a des gisements qui sont en chevauchement sur plusieurs territoires. Et quand cette situation se produit, il y a souvent certaines règles qui sont liées au droit maritime international qui permet d'établir les frontières maritimes qui ne sont pas forcément les mêmes frontières terrestres que nous avons, il peut arriver qu'elles se chevauchent. Et en se chevauchant, il peut arriver effectivement que des gisements qui sont situés dans le sous-sol maritime peuvent se retrouver en partage sur plusieurs pays. Et ça peut conduire en ce moment à des litiges.
Dans ce cas précis, il n'y a pas eu d'études.
Il faut bien comprendre que chaque pays réalise des études et ces études constituent ces clés géologiques. Mais les pays ne les déclarent pas tout de suite. Ce sont quand même des éléments de souveraineté. Donc un pays peut faire comprendre qu'il n'a pas fait d'études, alors que peut-être qu'il en a fait. Mais dans tous les cas, on n'a pas forcément besoin d'études approfondies quand on sait qu'une zone se situe dans une clé géologique hydrocarbonée. Pas besoin d'études. Les études vont plutôt venir confirmer la quantité de la ressource. C'est ça en fait le but de l'étude. Mais sinon, de façon potentielle, au flair du nez, on sait qu'on peut avoir du pétrole. Parce que quand vous êtes entouré par des bassins sédimentaires probants qui ont du pétrole et du gaz, vous vous trouvez dans une zone au milieu. Et d'office, vous avez des traces d'hydrocarbures qui laissent présager qu'au moins nous avons des réserves. Et là, à ce niveau, on fait la différence nette entre les réserves et les ressources.
Quelle est la différence ?
La réserve, c'est l'existence de la matière brute dans une zone donnée. que nous appelons un gisement. Voilà, la matière est là. Par contre, la ressource, c'est la capacité à pouvoir extraire cette réserve. Par exemple, vous pouvez avoir une réserve d'hydrocarbures qui se situe, par exemple, dans les eaux ultra profondes à 5000 mètres de colonne d'eau. Vous voyez, la réserve, elle est là, mais on n'a pas forcément les moyens techniques pour aller l'extraire. Donc, tant que vous ne pouvez pas extraire une réserve, vous l'évaluez en termes de ressources. Mais déjà, ce que l'on peut dire, c'est que on n'attend pas d'arriver à l'état d'évaluation de la ressource pour dire qu'il y a du pétrole ou du gaz dans une zone, mais déjà à l'état de réserve, il est potentiellement permis de dire que nous avons des ressources en quantité probante.
Serge Durmont, expert en énergie et pétrole, interrogé par Alexandra Brangeon. En République démocratique du Congo, les embouteillages paralysent régulièrement la ville de Kinshasa. C'est une problématique qui handicape la vie des Kinois et des Kinoises. Avec des bouchons monstres qui bloquent tous les jours de la semaine les principales artères de la ville. Les autorités ont déjà testé, sans succès pour l'instant, en tout cas plusieurs mesures pour tenter d'endiguer le phénomène dans cette mégapole de 17 millions d'habitants. Bonsoir Paulina Zidi.
Bonsoir.
De nouvelles mesures devraient donc être annoncées dans les prochains jours, mais les pistes envisagées font déjà polémique sur place.
Oui, c'est un communiqué qui est apparu sur les réseaux sociaux vendredi qui a lancé la dernière polémique, un communiqué des autorités kinoises qui n'est pas signé, mais qui évoque deux nouvelles décisions. L'interdiction de la circulation des poids lourds dans la ville entre 5h et 22h et surtout une circulation alternée pour les voitures selon le numéro des plaques d'immatriculation. Pour résumer, les plaques impaires pourraient circuler les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, les plaques paires mardi, jeudi, samedi et dimanche. Communiqué, il a beaucoup circulé, il a beaucoup été commenté, à tel point que le cabinet du gouverneur a fait une mise au point hier soir évoquant, je cite, un projet qui devait être discuté dans la journée. Et effectivement, selon une source proche du dossier, une réunion a eu lieu entre les autorités de Kinshasa, donc le gouverneur Daniel Bumba, et les autorités nationales, notamment le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. On attend désormais un communiqué. Une autre source au gouvernorat provincial confie que le deuxième point, cette circulation alternée est loin de faire l'unanimité. En effet, dans une ville où l'offre de transport en commun est assez faible, il est difficile d'imaginer empêcher les usagers de prendre leur voiture. Il y a très peu de bus, peu de transports scolaires, peu de trains. C'est irrationnel, estime un proche de la présidence qui ajoute que cette mesure sera en plus compliquée à faire appliquer.
Zidi, Paulina Zidi, en direct de Kinshasa. Au Mali, les membres du Conseil national de transition étaient convoqués ce matin à 9h pour étudier le plan d'action gouvernemental 2025-2026 proposé par le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga. Le vote de ce texte est prévu dans la soirée. Le CNT étant acquis aux autorités de transition, son adoption ne devrait donc pas poser de problème. Alors David Bachet, ce plan d'action prévoit notamment 24 000 recrutements dans les forces de défense et 19 heures d'électricité par jour.
15 000 soldats et 9 000 agents des forces de sécurité devront être recrutés et des camps militaires seront construits dans 6 localités du sud et du centre du Mali. L'objectif est de renforcer la présence de l'État dans les zones à forte insécurité, précise la primature. Les délestages ont augmenté de manière exponentielle depuis le début de la transition, pénalisant fortement le quotidien et les activités économiques du pays. Pour y remédier, la construction de 4 centrales solaires et hydroélectriques est annoncée afin de fournir 19 heures d'électricité par jour, contre 6 actuellement. L'année dernière, les chantiers de 3 centrales solaires avaient déjà été lancés officiellement. La lutte contre la corruption et le renforcement de l'agriculture sont également parmi les priorités affichées. Côté élection, le plan d'action prévoit de poursuivre le processus de réforme de la législation. C'est dans ce cadre que toutes les organisations politiques du pays ont été dissoutes la semaine dernière. Objectif affiché, créer les conditions pour des élections transparentes et apaisées. Le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, a déjà précisé lors de la présentation de ce plan qu'avant toute élection, les dispositions politiques, sécuritaires et techniques idoines devraient être rassemblées.
David Bachet, le ministre sénégalais des Forces armées, le général Biram Diop, reçu ce lundi par le président malien de transition, le général Assimi Goïta. C'est un communiqué de la présidence malienne qui a révélé cette visite qui n'avait pas été annoncée et qui survient 3 jours après spécial du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Ouagadougou pour évoquer la collaboration du Burkina et du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme. À l'issue de la rencontre, le ministre sénégalais Birane Diop a déclaré porter un message de main tendue au Mali face aux défis extrêmement aigus auxquels fait face le continent. Fin de citation. En Guinée, Sékou Kondé, secrétaire permanent du RPG, le parti du président déchu Alpha Condé, interpellé jeudi dernier, a été condamné à une amende de 50 000 francs guinéens, soit environ 5 euros. Il était poursuivi pour réunion non autorisée, mais les faits ont été requalifiés en violation d'une mesure administrative. Il a été condamné pour avoir organisé une réunion au siège de son parti alors que ce dernier avait été suspendu. L'opposition ivoirienne et de nombreux internautes ont dénoncé eux ce lundi la signature d'une convention entre plusieurs institutions comme le Sénat et la compagnie aérienne française Corsair, qui permet notamment à des élus et leurs familles de bénéficier de tarifs préférentiels dans un hôpital parisien. Jeudi, la présidente du Sénat avait effectivement signé cette convention permettant, je cite, la réduction des coûts des billets d'avion sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés. Les propos de la présidente du Sénat laissant entendre que cet avantage serait destiné aux élus de l'Assemblée nationale, du Sénat et de trois autres institutions ont donc déclenché une polémique ce lundi au sein de l'opposition. En Tanzanie, le procès de l'opposant Tundu Lissu a journé au 2 juin. Le président du parti Chadema a comparu aujourd'hui devant un tribunal de Dar es Salaam lors d'une audience préliminaire. Arrêté en avril dernier, Tundu Lissu doit répondre de deux chefs d'accusation, publication de fausses informations en ligne et trahison. Ce dernier crime est passible de la peine de mort. Mais l'opposant n'a pas l'intention de baisser les bras, Gaël Lalex.
Ça devient sérieux, a déclaré Tundu Lissu à l'issue de l'audience sous les acclamations de ses partisans. Avant de monter en voiture, l'opposant a levé deux doigts en l'air, signe de ralliement de son parti. L'audience n'a duré que quelques heures et à aucun moment Tundu Lissu n'a montré de signe de faiblesse. Dès son arrivée dans la salle, il déclare « Ne vous inquiétez pas, nous parviendrons à nos fins ». Sur son t-shirt, on peut lire « Pas de réforme, pas d'élection ». L'opposant demande depuis longtemps une réforme électorale. Son parti Chadema a refusé de signer le nouveau code de conduite électorale, ce qui lui a valu l'exclusion des prochaines élections générales en octobre. Lors d'un rassemblement, Tundu Lissu n'a pas caché son intention de perturber ce scrutin à venir, des propos qui ont mené à son arrestation. Au final, le procès est ajourné afin de permettre au bureau du procureur de terminer son enquête au sujet du chef d'accusation de trahison. La cour a toutefois fait part de son impatience, d'où la reprise des audiences début juin. D'ici là, Tundu Lissu reste en détention provisoire. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Au Sénégal, les transformateurs de cajou tirent la sonnette d'alarme. Depuis le début de la campagne de récolte il y a un mois, les prix de ce fruit flambent à cause d'une forte demande internationale et de l'absence de mesures de régulation de l'État. À ce prix, les entreprises sénégalaises de transformation de l'anacarde ne peuvent pas suivre. Une situation qui menace la survie même de la petite filière industrielle et du millier d'emplois qu'elle génère. À Dakar, les explications de Léalisa Westeroff.
Début avril, le gouvernement avait promis une série de mesures pour protéger et encourager la fragile filière de transformation de cajou. Sur chaque tonne de noix brute exportée, 32 francs CFA devaient être prélevés. Et les exportateurs dûment enregistrés auprès des autorités pour avoir une traçabilité des acteurs. Mais un mois plus tard, aucune de ces mesures n'est en place. Face à une demande mondiale forte et sans mesure de régulation, les prix sont déjà à 700 francs CFA le kilo, inatteignable pour la dizaine d'entreprises qui transforment l'acajou au Sénégal, comme celle d'Eliman Dramé à Ziguinchor, en Casamance.
Ce qui nous inquiète, c'est que la noix est en train de partir. C'est inquiétant parce que en tant que transformateur, si nous n'avons pas accès à la matière première, on sera obligé de fermer. On risque même de licencier le personnel et même de mettre la clé sous la pression.
Un peu plus de 1000 emplois sont menacés. Pour éviter la fermeture, la dizaine d'usines de transformation dans le pays demande à l'État de sécuriser un stock de 7000 tonnes de cajou à un prix abordable pour que ces entreprises puissent continuer à travailler et œuvrer à l'industrialisation du secteur. Léalisa Westeroff, Dakar, RFI.
En Tunisie, l'Institut national de la statistique a publié un nouveau recensement de la population. Le pays compte un peu moins de 12 millions d'habitants, dont 50,7% de femmes et 49,3% d'hommes. L'étude analyse aussi plusieurs évolutions sociétales depuis le dernier recensement effectué il y a 10 ans. Le reste, c'est Lilia Blaise qui raconte.
Une Tunisie plus peuplée, avec une hausse d'1 million d'habitants en 10 ans et moins d'1% d'étrangers, mais dont la population est vieillissante et inégalement répartie sur le territoire. La part des personnes âgées de plus de 60 ans a augmenté de 5%. Elle atteint les 17% en 2024 et une grande partie de la population, 60%, se concentre dans la capitale et les grandes villes du nord, tandis que le centre et l'ouest du pays restent moins peuplés. Les premières données du nouveau recensement de 2024, effectué par l'Institut national de la statistique, donnent plusieurs nouvelles tendances qui témoignent des mutations de la société tunisienne sur une décennie. Le taux d'analphabétisme est de 17%, un chiffre alarmant selon plusieurs experts, même s'il a baissé de 2% par rapport à 2014. Il reste beaucoup plus élevé chez les femmes, 22%, que chez les hommes, 12%. Ces données doivent permettre la mise en place d'un plan de développement entre 2026 et 2030, mais aussi ouvrir le débat sur les cotisations des retraites, la couverture sociale, la protection santé, la relance économique des territoires marginalisés et l'augmentation du budget de la santé et de l'éducation. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
RFI, 18h46, temps universel. Et je vous invite maintenant à Cannes, dans le sud de la France. Nous avons rendez-vous avec Guillaume Thibault et Tiffany Manta sur la Croisette, où se tient la 78e édition du Festival du cinéma. Bonsoir Guillaume Thibault.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Envoyé spécial de RFI pour couvrir cet événement mythique où sont projetés chaque jour les films en compétition. 22 longs métrages sont en lice pour décrocher la fameuse Palme d'Or. Et aujourd'hui Guillaume, c'est le film Les Aigles de la République qui est à l'affiche.
Et c'est la tradition Zéphirin. Cette soirée a débuté avec la montée des marches pour l'équipe du film, tapis rouge, tenue de soirée, séance photo, quelques autographes avant d'aller assister à la projection dans le théâtre Lumière. Les Aigles de la République, c'est un peu du cinéma dans le cinéma, lorsqu'un acteur vedette égyptien, libre et indépendant, Georges El Nabawi, interprété par Fares Fares, n'a pas le choix et doit accepter de jouer dans un film où il interprète le chef de l'État. Cet acteur aime répéter « on est là pour faire oublier aux gens la douleur », mais il va se retrouver lui-même confronté à un pouvoir féroce, mettre sa famille en danger, pris dans les tentacules d'un régime répressif. Ce long métrage est le dernier volet de la trilogie du réalisateur suédois d'origine égyptienne Tariq Saleh, qui boucle sa vive critique du régime politique du président Abdel Fattah al-Sissi, entamé en 2017 avec le Caire confidentiel, puis la conspiration du Caire, prix du scénario Zéphirin, ici à Cannes en 2022.
Guillaume Thibault en direct de Cannes avec les moyens techniques de Tiffany Manta. Merci à tous les deux. Du football à présent, l'attaquant nigérian Victor Osimhen fait des étincelles en Turquie 4 jours après avoir été le grand artisan de la victoire de son équipe Galatasaray en finale de la Coupe. Il a encore marqué hier dans le match qui a offert à Galatasaray le titre de champion de Turquie, en doublé coupe championnat, 2 trophées qui portent la marque de Victor Osimhen. Olivier Pron, l'attaquant des Super Eagles du Nigeria prêté par Naples a survolé la saison alors que beaucoup s'interrogent sur son avenir lorsqu'il a débarqué dans le championnat turc en septembre dernier.
40 matchs disputés, toutes compétitions confondues, championnat, coupe et Europa League, 36 buts marqués, 8 passes décisives. C'est peu dire que Victor Osimhen a été décisif dans la saison du club stambouliote. Arrivé en grande pompe début septembre dernier en provenance du Napoli, après une saison en demi-teinte, le Nigérian était attendu au tournant à 26 ans dans un championnat moins clinquant. Il a donc répondu présent et su faire oublier notamment aux supporters de Galatasaray la blessure début novembre de l'argentin Mauro Icardi, écarté des terrains pour la suite de la saison. Quelques mois pour briller, faire taire les sceptiques, puis rentrer en Italie. Prêté sans option d'achat, Naples va bien sûr faire revenir Osimhen pour en tirer le meilleur parti. Financier. À 1 an de la fin de son contrat, il est temps de le monnayer. Sa clause libératoire est fixée à 75 millions d'euros. Chelsea et Manchester United ont déjà fait part de leur intérêt pour l'attaquant des Super Eagles. La Juventus aussi. Mais pour un club italien, ce sera plus cher. Pas question de renforcer un concurrent.
Olivier Pron, RFI, 18h49 en temps universel. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous, Romain Ozoui.
Et avec l'appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, satisfaction affichée des deux côtés. Le coup de fil s'est très bien passé, selon le président américain, tandis que son homologue russe salue une conversation, je cite, « utile ». Dans le détail, Donald Trump affirme que la Russie et l'Ukraine vont immédiatement démarrer des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Vladimir Poutine va dans le même sens. Il précise que la Russie est prête à travailler avec l'Ukraine sur un mémorandum concernant un possible traité de paix. À noter qu'avant cet entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, eh bien le président américain avait appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La mobilisation qui grandit face à la situation à Gaza, ce lundi dans une déclaration conjointe, les dirigeants français Emmanuel Macron, britannique Keir Starmer et canadien Mark Carney ont prévenu qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux actions jugées scandaleuses du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a annoncé ce lundi qu'Israël prendrait le contrôle de tout le territoire de Gaza. Alors que l'offensive militaire ne cesse de s'intensifier après plus de 2 mois de blocus, Israël ce lundi a laissé passer des camions transportant de la nourriture pour bébés à Gaza, une reprise qui est jugée bien trop insuffisante par les ONG. Et puis un record pour le 8e sommet Choose France, destiné à attirer les investissements étrangers en France, et qui se tient ce lundi à Versailles. Il recueille 20 milliards d'euros de projets. Plus de 200 patrons issus des 5 continents sont présents. La France qui est le premier pays européen en termes d'investissements étrangers. 20h50 ici à Paris, c'est la suite de cette première édition d'Afrique Soir, Zéphirin Quadio. Et cette menace sur un quartier pittoresque de la ville du Cap en Afrique du Sud.
Et oui, le tourisme, la gentrification, vous le savez, permettent souvent de revitaliser des quartiers, mais ils sont aussi parfois une menace pour leur identité et pour le confort de leurs habitants. Et dans la ville du Cap en Afrique du Sud, un quartier en fait les frais, appelé Beau Cap. Ces petites maisons colorées à flanc de colline ravissent les Instagrammeurs et autres visiteurs. Une situation de plus en plus difficile à tenir pour les habitants. Après plusieurs années de lutte, ils viennent d'obtenir que les bus touristique ne soit plus autorisé à entrer dans le quartier. Reportage Joséphine Klöckner.
Ruelle pavée à flanc de colline, le quartier de Beau Cap, au-dessus du Cap en Afrikaans, a des allures de village en plein cœur de la métropole sud-africaine. Un village aux mille couleurs avec ses petites maisons roses, vertes, bleues qui font la joie des touristes comme Nadira.
Qui ne voudrait pas venir ici? C'est vraiment joli pour faire des photos. C'est une attraction touristique, donc il fallait vraiment qu'on passe par ici.
Chaque jour, une foule de visiteurs envahit les ruelles étroites du petit quartier. Un succès difficile à gérer pour les habitants.
C'est très beau ici. Et on comprend tout à fait que les gens veulent venir et prendre des photos. Le problème, c'est le manque de respect qui vient avec.
Jackie Poking, résidente et activiste.
Certains touristes pensent qu'en venant ici, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Qu'il s'agisse d'ouvrir le portail de quelqu'un et de monter le perron pour prendre une photo ou de demander à un habitant « Est-ce que vous pouvez rentrer à l'intérieur parce que je veux faire une photo de votre maison ?»
Les résidents viennent d'obtenir l'interdiction pour les bus touristiques de circuler dans les ruelles, après des années à le réclamer. Descendante des esclaves malais, cette communauté à majorité musulmane est installée ici depuis des générations et y a fondé la première mosquée du pays. Elle a développé de nombreuses traditions menacées aujourd'hui par la gentrification.
Nos tarifs, comme l'eau et l'électricité, augmentent d'année en année. Il devient donc très difficile pour les habitants de rester dans le quartier, même s'ils le souhaitent, surtout les personnes âgées. Souvent, ceux qui ont vendu ces dernières années l'ont fait parce qu'ils n'arrivaient plus à payer.
De plus en plus de maisons sont rachetées par des investisseurs, constate Zaki Harris, habitant et guide touristique.
Dans ces rues principales, une maison sur deux est habitée par un Sud-Africain. Et entre les deux, on trouve des Airbnb et d'autres locations à court terme. Des maisons qui restent vides la moitié de l'année.
Zaki milite pour un tourisme plus soucieux des traditions et qui profite davantage à la communauté qui, pour l'instant, en perçoit peu les retombées.
Si nous ne promouvons pas un meilleur tourisme, il sera beaucoup plus difficile pour nos enfants de pouvoir garder le lien avec leur patrimoine culturel.
Difficile pour la petite communauté de résister aux assauts de la ville. Elle n'a pas réussi à empêcher la construction d'un immeuble de 6 étages en bordure de Beau Cap. Joséphine Klöckner, de retour du Cap, RFI.
RFI, 18h54, temps universel. Et on parle maintenant de musique dans Afrique Soir. Et c'est avec vous, Franck Baudin, de la rédaction web de RFI. Bonsoir Franck.
Et bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous.
Une fois n'est pas coutume, Franck, vous nous proposez une sélection hexagonale ce soir. Et on commence par cette triste nouvelle qui a secoué le monde de la musique ces derniers jours. Il s'agit de la mort du rappeur Warrenoi.
Oui, Zéphirin, une nouvelle d'autant plus triste qu'elle a été soudaine. Samedi dernier, dans la matinée, nous apprenions le décès du rappeur de Montreuil à l'âge de 31 ans. Il avait été acclamé quelques jours plus tôt lors de la prestigieuse cérémonie des Flammes, au cours de laquelle il avait reçu la flamme Spotify de l'album de l'année. Et pour cause, puisque cet artiste né de parents camerounais était le plus gros vendeur d'albums en France pour la deuxième année consécutive, une consécration qu'il avait atteint en moins de 4 ans, le temps de sa très courte carrière, mais néanmoins mémorable.
Et on écoute Triple V de Werenoi, un de ses derniers tubes sortis le mois dernier en collaboration avec les rappeurs Damso et Nino.
Je suis loin de l'époque du foyer, je rentre dans ma tremont, j'ai la porte poignée. Trop de chaud, donc y'a trop de mailles. Trop de vol, donc y'a trop de maïs. Y'a trop de buzz, donc y'a trop de femmes. Trop de fans, donc y'a trop de flammes. Chez eux, c'est les streams qui payent. Chez nous, c'est les streams qui parlent.
Et on va changer d'ambiance avec une artiste française d'origine sénégalaise qui revient, elle, sur le devant de la scène. C'est la sublime Awali.
Loving my rebirth. I seize the day. Between earth and the sky.
Et elle revient avec un album encore plus fusion, au croisement entre la folk, la world, la soul et le jazz. Essence and Elements est sorti vendredi dernier. C'est le 7e album studio de la chanteuse française née de parents sénégalais. C'est un disque assez spirituel qui nous parle de notre connexion au monde et de la dimension céleste qui nous entoure. Pour écrire cette nouvelle page, Awali s'est inspiré des éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. La chanteuse nous explique ça dans une interview de Marjorie Bertin à retrouver sur notre site RFI.fr. En attendant, je vous propose ce titre planant et envoûtant, sorti tout droit de son album, voici Essence.
Voilà, court extrait de Essence de Awali. Et on termine, Franck, en beauté avec celui que l'on surnomme le roi de la mélo, un roi dont on a aussi beaucoup parlé hein, la semaine dernière, Franck.
Et tout à fait pour cause, puisqu'il était le grand gagnant de la cérémonie des flammes la semaine dernière. On parle bien sûr de Tiakola, le rappeur d'origine congolaise qui est en tournée pour son Mélo World Tour. Il joue déjà dans la cour des grands à l'âge de 25 ans et nous, à RFI, on a son concert complet sur notre site internet. Un concert enregistré le 27 mars dernier à l'Accor Arena de Paris par nos équipes de RFI Labo. Attention parce que c'est un mix spécial en Dolby Atmos, c'est du son spatialisé et ça s'écoute de préférence au casque. Si vous voulez revivre ce moment en immersion, rendez-vous sur RFI.fr.
Et on écoute Psychologique de Tiakola, je crois que c'est la chanson qui ouvre son concert d'ailleurs.
Alors, je vois que vous avez écouté le concert Zéphirin, c'est bien ça.
Et plutôt deux fois qu'une. Merci beaucoup Franck Baudin et à très bientôt. Voilà, c'est sur la voix du Congolais Tchako que s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. Et on retrouve maintenant Romain Ozoui pour égrener le programme de la soirée sur RFI.
Zéphirin Quadio, merci beaucoup à vous pour cette première édition d'Afrique Soir de ce lundi. Effectivement, le programme, parce que la session d'info de la soirée sur RFI, elle se poursuit pendant encore une heure. Dans une minute, ce sera le journal de 19h temps universel qui sera présenté par Sébastien Farcy. Et Sébastien, eh bien, qui assurera le décryptage cette semaine et qui évoquera ce soir le fléau du narcotrafic en France. Quelle réponse des autorités? L'invité de Sébastien Farcy est déjà à RFI. Et puis, après, ce sera la deuxième édition d'Afrique Soir de ce lundi, Zéphirin Quadio, dans 30 minutes. Et puis, dans 40 minutes, eh bien, le grand reportage qui nous emmènera ce soir en Chine, où la natalité est au plus bas, quand l'intime défie la politique. Ça, ce sera le titre de ce grand reportage signé de l'envoyé spécial permanente de RFI en Chine, Cléa Brothers. Voilà, vous avez le programme de l'heure qui suit. Ne bougez pas. Les infos dans une minute.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi développer le spatial au Sénégal et sur le continent ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Le spatial comme levier de développement durable ? La question est ouverte à Dakar, lors de la première édition de la Sénégal Space Week, juste après la création annoncée au Caire de l'Agence spatiale africaine. Comment développer le potentiel spatial de l'Afrique ?
Autour de la question, tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
À quelle valeur éduque le sport de haut niveau ? À l'esprit collectif ou à la loi du plus fort ?
Mercredi.
Comment garantir l'autonomie des cantines scolaires ? Quelle place pour les produits locaux ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.